Le journal Thérèse Bastouli. Après 4 mois d'opération en RDC, le mandat de la force européenne arrive à terme ce 30 novembre à minuit. Cependant, le fort reste opérationnel jusqu'au départ du dernier soldat. À Kananga, les enseignants des écoles primaires et secondaires publiques sont dans les rues depuis ce matin. Ils réclament leurs arriérés de salaire de 2 mois. Au Nord Kivu, une cinquantaine d'hippopotames ont été abattus ces 3 derniers jours dans le parc des Virunga. L'Institut congolais pour la conservation de la nature au Nord Kivu accuse des groupes armés Mai Mai d'être auteurs de ce massacre d'hippopotames. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, rebonjour et merci d'être à l'écoute de Radio Kapi. C'est ce soir à minuit que prend fin la... que prend fin le mandat de l'EUFOR, c'est la mission militaire européenne en RDC, après 4 mois d'opération aux côtés de la MONUC. Selon le lieutenant-colonel Thierry Fuzalba, la fin du mandat ne signifie pas la fin de la mission. La mission sera terminée lorsque le dernier soldat européen sera rentré chez lui, a-t-il déclaré. Le lieutenant-colonel Thierry Fuzalba, porte-parole de l'EUFOR, est au micro de Karine Kakassi.
Nous serons toujours opérationnels, mais évidemment, nous n'aurons plus le mandat pour faire les missions que nous avions avant. On pourra se déployer, envoyer des convois sur les routes, utiliser l'autoprotection. Nous aurons le droit d'intervenir en cas de légitime défense ou pour protéger des personnes qui seraient mises en danger, mais à proximité des forces européennes. Mais on ne pourra pas intervenir d'une manière ou d'une autre. Pour faire les missions que nous aurons le droit de faire, nous sommes parfaitement bien équipés. Maintenant, s'il s'agit d'intervenir... en soutien de la MONUC, comme ça s'est produit les événements du 20 août, nous ne pourrons plus le faire tout simplement parce que nous aurons plus ce qui s'appelle les règles d'engagement qui constituent un cadre juridique dans lequel nous pouvons agir. Ces règles d'engagement se terminant ce soir à minuit en même temps que la fin du mandat. Il faut savoir que le redéploiement prendra 4 à 6 semaines divisées en 2 phases. Une première phase qui ira jusqu'à mi-décembre, nous conserverons d'assez nombreuses capacités de combat. Et je pense que courant janvier, le dernier soldat quittera le territoire du Congo.
Les ministres allemands de la Défense et de la Coopération dressent un bilan positif de la mission des troupes de l'EUFOR en République démocratique du Congo. Intervenant à la télévision allemande, le ministre de la Défense a déclaré que la mission s'est très bien déroulée et que les élections démocratiques ont été assurées. En province orientale, en Ituri, désormais les 3 groupes armés encore actifs partagent un engagement de paix commun vis-à-vis du gouvernement. Le MRC de Mathieu Ngudjolo, le FPRI de Cobra Matata et le FNI de Peter Karim ont tous signé hier un accord cadre pour la paix. Selon les termes de cet accord, les 3 groupes armés réitèrent leur engagement à respecter le calendrier déjà établi pour envoyer leurs combattants au centre de pré-brassage. Témoin de l'événement, Jean-Claude Bissiliabou.
Cet accord a été signé au quartier général de FARDC à Ituri en présence des autorités militaires de la MONUC. Dans cet accord, le gouvernement s'engage à proposer dès la mise en place du prochain Parlement une loi d'amnistie en faveur des responsables de ces 3 groupes armés. Quant aux groupes armés, ils s'engagent notamment à envoyer leurs combattants dans les centres de pré-brassage d'après les calendriers que présentent les commandants des opérations militaires FARDC à Ituri, général de brigade Vinker Mayala.
Pour le FNI, du 27 novembre au 3 décembre, MRC du 4 au 10 décembre et FRPI du 11 au 17 décembre 2006. L'entrée dans le processus doit obligatoirement s'effectuer avant le 30 décembre 2006.
Pour confirmer leur engagement, parmi ces 3 groupes armés, il y en a qui ont déjà exprimé leur ambition de s'ériger en parti politique, sitôt l'intégration de leurs combattants est effectuée. C'est le cas du FRPI de Cobra Matata, comme le déclare son responsable politique, Émile Mouito.
Dès qu'il s'est rebrassé, nous devons orienter les uns à l'intégration. Le mouvement est déjà né et doit évoluer. À parti politique, c'est ça notre objectif. Ça demande la collaboration avec le gouvernement à partir d'aujourd'hui.
Signalons que le présent accord abroge tous les autres intérieurs signés séparément par chacun de ces groupes armés. Bounia, Jean-Claude Bissiliabo, Radio Kapi.
À Mbujima et au Kasaï oriental, la société civile appelle la population à se soumettre au verdict des urnes et à ne plus rester en marge de la vie politique du pays. Cet appel a été lancé hier, mercredi, par le secrétaire général de la SOCICOR à l'occasion de la remise des attestations de services rendues aux membres du bureau de représentation provinciale de la CEI. Lievin Chimanga, secrétaire général de la société civile de Kasaï oriental, est au micro de Chris Mukand.
Nous demandons à la population d'obéir à tout ce qui s'est passé, d'obéir au verdict des urnes parce que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes autre chose qu'en dehors de notre pays. Nous ne voulons pas faire l'exception cette fois-ci, parce que notre province a été plusieurs fois entachée de beaucoup d'irrégularités par les gens de l'extérieur comme de l'intérieur. Mais actuellement, nous voudrions nous conformer aussi, comme les autres, comme toutes les provinces, que nous marchons de pair pour le développement non seulement de notre pays, mais aussi de notre province particulièrement. Vous savez que l'union fait la force. Si le Kassai oriental est isolé de toutes les autres provinces, nous ne sommes pas forts. Mais si nous sommes ensemble avec les autres provinces, à ce moment-là, nous allons marcher de pair, nous serons aussi forts comme les autres provinces.
42e anniversaire de l'assassinat de la religieuse Anne-Marie Teyenenga-Peta, c'est demain vendredi 1er décembre. Plusieurs manifestations sont prévues à Isiro, dans la province orientale, pour commémorer cet anniversaire. Exemple, ce pèlerinage essentiellement consacré à la clôture de l'année pastorale Anne-Marie Teyenenga-Peta, qui se tient dans cette ville. Notez que plusieurs délégations catholiques du pays sont déjà sur place, avec à leur tête l'archevêque de Kisangani. Monseigneur Laurent Moussengo va présider cette manifestation attendu en début d'après-midi. Pour rappel, la religieuse Anne-Marie Teyenenga-Peta a été tuée le 1er décembre 1964 à Isiro. De notre envoyé spécial sur place à Isiro, Jacques Moukonkolé.
Ce pèlerinage national est le troisième après ceux organisés en 86 et en 89. C'est ce qui explique le déplacement des 14 évêques du pays et leurs délégations dans quelques milieux où a évolué la généreuse annualité. Du 26 au 29 novembre, les évêques de Wamba, Popokabaka, Mweka, Kamina, Kongolo, Mahagi, Kabongo, Kikwit et Kananga se sont rendus à Matari, village natal d'annualité, et à Bafouabaka, sa mission religieuse, avant de regagner Isiro hier soir. Cet après-midi, il est prévu le chemin de la croix et la visite des sites du martyr, notamment la Maison Bleue, lieu où elle avait versé son sang. Il faudra signaler ici l'absence du cardinal Frédéric Itzao. Selon les organisateurs, le prélat est actuellement en Europe pour raison de santé. C'est donc l'archevêque de Kisangani, Mgr Laurent Moussengo, qui présidera ces cérémonies. En dépit de la présence massive des évêques du pays à Isiro, on ne devra pas s'attendre à une déclaration politique de la CENCO. Selon la chargée de communication de cet organe, Cécile Kalambay, c'est seulement à partir de la semaine prochaine que sont prévues les réunions du comité permanent et de la plénière de la CENCO. Jacques Moukonkolé, Isiro, Radio Okapi.
Marche des enseignants du secteur public de Kananga ce jeudi matin. Ils revendiquent leur arriéré de salaire de 2 mois. Le mot d'ordre de cette marche a été donné par les 2 syndicats des écoles publiques et catholiques, CIECO et SINECAT. André Kambala pour les détails.
Nos salaires de 2 mois ou rien. Voilà ce que des enseignants du primaire et secondaire de Kananga avaient écrit sur des calicots. Réunis au niveau de la pro-cathédrale Saint-Clément, plusieurs centaines de ces enseignants ont marché jusqu'au bâtiment administratif en passant par l'hôtel de ville. Sur tout le parcours, ils n'ont causé aucun dégât. Au bâtiment administratif, ils sont restés longtemps sans suite de l'autorité. Ils ont été rejoints sur place par des élèves d'une des écoles primaires de Kananga. Ceux-ci sont venus leur informer de la mise aux arrêts de l'un de leurs enseignants par la police. Selon des témoignages, cet enseignant a été appréhendé lorsqu'il s'est présenté dans une école, invitant les enseignants à se joindre au groupe qui était déjà en marche. Voilà qui a augmenté la colère des enseignants, surtout lorsque ses élèves scandaient des slogans demandant la libération de leur maître. Un temps après, ces enseignants ont pris la résolution de se rendre à la police solliciter sa libération. Leurs délégués ont décidé de s'y rendre seuls pour raison de discipline. Notons que les enseignants réclament leurs arriérés des salaires du mois d'octobre et novembre 2006. Ils se disent fatigués d'avoir déposé un mémo depuis le 14 novembre auprès des autorités, et un mémo qui est resté lettre morte. Kananga, André Kambala, Radio Kapi.
Le fleuve Congo est sorti de son lit. Plus de 500 familles sont sans abri et vivent dans des pirogues dans la province orientale à Bassoko, territoire situé à plus ou moins 300 km de Kisangani. Ce sont les chiffres donnés par l'administrateur de ce territoire qui affirme que 22 villages de son entité sont sous les eaux suite à la crue du fleuve Congo et de ses affluents. Jean Bosenkela Madjini, administrateur du territoire, décrit la situation. Il est joint au téléphone par André Kitengi.
Le territoire de Bassoko qui est traversé par le fleuve Congo. Beaucoup de villages sont déjà sous eau, sont inondés. Nous avons au total 22 villages qui sont déjà inondés. On peut estimer à 786 familles qui sont sinistrées. On peut extrapoler jusqu'à au-delà de 5000 ou 6000 personnes qui sont sinistrées dans le territoire de Bassoko. Comme bon nombre de villages sont très distants, sont très éloignés de la cité de Bassoko, ceux-là restent toujours à côté de leur village. Ils sont dans leur pirogue. À ce moment-là, vous comprenez, ce sont des pirogues bateaux de pêche, pirogues maison, et pirogues comme breuvage, parce qu'ils ont de l'eau sur place là-bas. Je peux y ajouter aussi pirogues toilettes, parce qu'ils ne savent où aller. S'ils veulent peut-être aller aux besoins, ils restent toujours à côté. Donc, pirogues bateau de pêche, pirogue de maison, vous pouvez un peu deviner toutes les maladies éventuelles. Je parle des maladies endémiques qui sont éventuelles.
La série des inondations continue, mais cette fois dans la province de l'Équateur. Près de 200 maisons sont sous les eaux et de nombreuses familles sans abri. C'est le bilan des inondations à Bumba, localité située à 600 km de Mbandaka. Le fleuve est à la base des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la région ces derniers mois. Des précisions, Dominique Colombi-Montampangue.
Les crues du fleuve dues aux pluies diluviennes ont déjà inondé une bonne partie du centre commercial au nord et les quartiers Moloa au sud de la cité de Bumba. Les pluies continuent à tomber et les zones arrêtent de monter. Les quartiers Mobutu, l'hôpital général de référence et la partie sud du centre commercial où se trouve la banque commerciale et les bâtiments administratifs du territoire sont menacés. Près de 200 maisons sont inondées. Certaines familles sans abri vivent sur des pirogues. Plusieurs hectares de champs de riz irrigués sont perdus. Selon les responsables de l'ONG catholique Caritas Développement, ces inondations ont coupé les voies d'approvisionnement en produits vivriers de la cité de Bumba, notamment les ponts de la rivière Moloa sur la route qui mène à Lissala. Pour entrer avec leurs produits à Bumba, les paysans empruntent des pirogues moyennant une somme d'argent pour la traverser. Une cellule de crise est mise en place par l'autorité locale. Selon les médecins chefs de zone de Bumba, pas encore des cas de maladie, mais avec les mauvaises conditions hygiéniques dans lesquelles vivent les familles sans abri, il est à craindre que des maladies d'origine hydrique ne se déclarent, dit-il. Face à ces sinistres, l'ONG Caritas Développement lance un appel aux humanitaires à venir au secours des sans-abri. Mbandaka, Dominique Wolombi Mongapangé, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, plus de 50 hippopotames ont été abattus ces trois derniers jours dans les baies de Munyanga et de Vichumbi, en territoire de Rutshuru. Selon l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ce massacre d'hippopotames aurait été commis par des maïmaï venus de la localité de Tchondo, en territoire de Lubero. Selon le conservateur en chef du secteur centre du parc des Virunga, basé à Rwindi, à 150 km au nord de Goma, une cinquantaine d'hippopotames ont déjà été tués. Monsieur Claude Sikwabo l'a déclaré au micro de Charles Ntirisha.
C'est un groupe de maïmaï. Ils abattent à un rythme d'une guerre. On dirait qu'ils font la guerre aux hippopotames. Avant-hier, ils ont abattu la journée 8 et le soir 10. Hier, ils ont abattu 36 hippopotames en face de Vichumbi dans la baie Mugera. Avec cette allure, on aura difficile à trouver un seul hippopotame à mi-janvier. Il faudrait que le gouvernement essaie de voir. Nous n'avons même pas les 1/10 de moyens logistiques pour affronter ces gens. Le peuple Vichumbi a 10 gardes. Comment 10 gardes peuvent affronter plus de 300 maïmaï hautement armés? Le parc national de Virunga, c'est un patrimoine national et aussi international. Et je ne vois pas comment on peut les laisser se détruire comme ça.
Cap vers la province du Katanga où plus de 250 tonnes de concentré de cuivre volé des installations de la Gécamine à Kolwezi ont été saisies par la police des mines de Lubumbashi. L'administrateur délégué général adjoint de la Gécamine a déclaré que ces vols à répétition de ce produit estimé à plus de 300 000 dollars américains hypothéquaient les finances de l'entreprise et ne permettaient pas de réaliser les objectifs qu'elle s'était assignés. Mukusa Kalembwe réagit ainsi à ce phénomène dont le dernier cas remonte à lundi dernier. Il nous retrace ici les péripéties qui ont conduit à la récupération de ce produit. Mukusa Kalembwe est au micro de Jean Gando.
Il y a des camions qui ont été saisis il y a quelques jours par les services de la sécurité. Des camions qui quittaient la ville de Lubumbashi et qui partaient vers la frontière. Ils ont été saisis, ramenés au niveau du gouvernorat. Et le gouvernorat nous a invités à venir expertiser ce qui a été fait. Et nous avons pu identifier avec certitude 5 camions contenant des concentrés de cuivre. Et nous l'avons donc confirmé au niveau de l'autorité gouvernementale que ces produits appartenaient bien à la Gécamine. Nous sommes certains donc que ces produits viennent probablement de Kolwezi. À Kolwezi, il y a une activité des jeunes créseurs, qu'ils appellent les verres d'eau, ils cherchent des verres d'eau, mais en fait, ce sont des concentrés Gécamine qui vont, ils vont dans les installations de la Gécamine. Ils creusent, ils grattent, etc. Ils récupèrent les concentrés qui étaient perdus et que la Gécamine récupère habituellement. Du fait que les installations de la Gécamine sont une véritable passoire, ils entrent, ils produisent donc ces produits, les mettent dans les sacs et ils les vendent à des preneurs qui sont établis sur place.
La journée internationale Ville contre la peine de mort, c'est aujourd'hui jeudi 30 novembre à Bukavu, au sud Kivu. Ce sont des centaines de personnes qui sensibilisent depuis ce matin les membres de la communauté santé EGDIO pour venir signer une pétition contre la peine de mort. Cette pétition contre la peine de mort sera déposée sur la table du nouveau chef du gouvernement congolais dès qu'il sera désigné. Explication de Patrick Batumike, responsable de la communauté santé EGDIO à Bukavu.
Nous pensons que la peine de mort est une négation du droit universel reconnu à la vie. Elle est aussi impuissante à combattre la violence et qu'elle est en réalité une légitimation de la violence la plus totale.
Qu'est-ce que vous allez faire de cette pétition?
La pétition que nous allons faire signer ici à Bukavu, comme dans toutes les villes du Congo, partout dans le monde, dans plus de 300 villes du monde où existe la communauté de santé Gidio, nous allons adresser ces pétitions à tous les gouvernements du monde entier qui n'ont pas encore adhéré à l'abolition de la peine de mort. Vous savez que le Conseil de notre pays consacre le droit universel à la vie, mais la peine de mort est encore applicable dans notre pays. Nous allons aussi adresser au nouveau gouvernement élu cette pétition afin qu'il puisse adhérer aussi à l'option abolitionniste.
Le responsable de la communauté santé Gédio, Patrick Batumike, était au micro de Serge Maéché. L'actualité internationale en bref, en Afrique, près de 30% de la population d'Afrique ne mange pas à sa faim, a rappelé le directeur général de la FAO, Jacques Diouf, à l'occasion d'une réunion des ministres africains de l'agriculture à Libreville. La capitale gabonaise accueille jeudi et vendredi, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et de l'Union africaine, une réunion des ministres africains de l'agriculture pour la sécurité alimentaire. Cette rencontre préparera le sommet des chefs d'État sur le sujet prévu le 7 décembre à Abuja. C'est ici que prend fin ce journal. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.radiocapi.net ou en ondes courtes sur 11 890 kHz à partir de 17h, heure de Kinshasa. Okapi. Okapi.